Ce sont donc des personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité marqué par une très forte instabilité émotionnelle, colère, détresse, sensation de vide intense. On parle de personnalité borderline, avec chez ces personnes des risques de suicide, des pratiques dangereuses et des comportements compulsifs. Ce trouble semble être devenu le mal du siècle, au point qu'un service spécialisé dans la prise en charge des personnes borderline a été créé au CHU de Montpellier. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités qui sont à l'origine de cette première filière de soins. Et elles répondront d'ailleurs à vos messages et à toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui une étude en génétique des populations qui nous éclaire sur l'histoire des peuples bantous.
Oui Mathieu, le séquençage de plus de 2000 génomes africains nous raconte 5000 ans d'histoire, des premières migrations bantous jusqu'à d'autres migrations forcées par l'esclavage. On en discute avec le généticien des populations, Luis Quintana Murci.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la science en grand format avec nos confrères de France 5 pour un documentaire aujourd'hui sur Léonard de Vinci. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission, préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le trouble borderline dans le dossier dans un instant. Je salue mes invités, la psychiatre Déborah Ducasse et la psychothérapeute Véronique Brand-Harpon. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Déborah Ducasse, les personnes borderline, c'est avant tout un problème de régulation des émotions?
Oui, en effet, on considère qu'il y a trois grandes dimensions à ce trouble. Tout d'abord, un problème de régulation des émotions, donc des personnes qui sont hypersensibles, avec des émotions qui vont être déclenchées par de petites choses, particulièrement intenses, et des difficultés, en effet, à les réguler. Une autre dimension qui est l'impulsivité, c'est la mise en place de comportements ayant une fonction d'éviter la souffrance le plus rapidement possible, sauf que ces comportements vont avoir tendance à éloigner la personne de ce qui serait vraiment important pour elle dans la vie. Et puis une autre dimension qui est vraiment fondamentale dans ce trouble-là, c'est la difficulté dans les relations interpersonnelles, avec à la fois des relations interpersonnelles qui vont être intense et instable, donc marquée par l'instabilité, l'intensité, et aussi une peur intense de l'abandon, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Absolument, on y reviendra en détail avec vous. Véronique Brand-Harpon, vous avez donc créé toutes les deux, au CHU de Montpellier, cette filière de soins dédiée aux personnes borderline. La prise en charge devient vraiment urgente là, dans ce domaine?
Alors, il faut savoir quand même que le trouble borderline touche 6% de la population, ce qui est donc pas négligeable.
Oui, c'est beaucoup
même. Tout à fait. Et ce sont des personnes qui se retrouvent souvent en grande souffrance et en forte demande de soins. Et or, à ce jour, il existe quand même peu de centres et de soins spécifiquement dédiés et efficaces dans la prise en charge de ce trouble.
Et vous avez des gens qui viennent de toute la France.
Tout à fait. Des gens qui viennent de toute la France. Et de ce fait, on a pensé qu'il serait intéressant, du coup, pour pouvoir élargir ces soins spécifiques, de proposer un programme, du coup, spécialement dédié. C'est l'objet de notre livre, qui est donc une thérapie pas à pas que les personnes peuvent s'appliquer à domicile.
Et qui est publié chez Odile Jacob. On y reviendra avec vous. On se retrouve dans un instant pour comprendre qui sont les personnes borderline avec les messages des auditeurs. La génétique qui éclaire l'histoire des peuples bantous en Afrique, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Ukubala, nye, mbini, ntatu, ne, ntanu, ntandatu, sitenge, sibozo, le toba, shumi.
Voilà, c'est la langue Xhosa qui est parlée en Afrique du Sud, qui est une des très nombreuses langues bantoues utilisées aujourd'hui par plus de 310 millions de personnes en Afrique. Et l'histoire de ces populations qui a commencé il y a 5000 ans entre le Cameroun et le Nigeria actuel, quand une poignée d'hommes justement est partie répandre l'agriculture dans toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est l'histoire de ces gènes bantous et leur dissémination jusqu'à maintenant qui vous a intéressé. Luis Quintana Murci, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes généticien des populations au CNRS, à l'Institut Pasteur, et vous signez donc cette large étude publiée dans la revue Science. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de suivre ces gènes de personnes bantoues en particulier? Pourquoi cette population là par rapport à une autre?
Déjà parce que c'est la plupart des Africains subsahariens parlent des langues bantoues. Et aussi un peu plus historiquement dans le laboratoire, surtout la recherche menée par UTN Patin, c'était concentré sur l'autre volet de l'histoire africaine, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs, comme vous savez, les pygmées et autres. Et on utilisait, entre guillemets, toujours les bantous jusqu'en population de comparaison. Et on s'est dit, pourquoi on n'étudie pas vraiment les bantous, qu'aujourd'hui c'est plus de 300 des millions de locuteurs. Et on a essayé de retracer toute son histoire et démographique, et aussi d'adaptation génétique à l'environnement.
Et alors comment on fait? Comment on retrace une histoire vieille de 5000 ans grâce au génome d'humains actuels?
Donc ce qu'on a fait, c'était effectivement, on a eu cette collection d'environ 2000 individus de locuteurs de langue bantoue dans toute l'Afrique subsaharienne.
Donc c'est de l'ADN concrètement ?
C'est de l'ADN, des personnes modernes comme nous, si on était des Européens, qu'on prend notre ADN d'aujourd'hui. Et on étudie la variabilité de son génome, pas le séquençage complet. Pour cela, il faudrait avoir beaucoup plus d'argent de ce qu'on a. Ouais. Mais on a étudié dans la diversité génétique de tous ces individus modernes comme nous. Et on peut retracer avec des approches de génétique de population d'où ils viennent, quand ils ont commencé à bouger tout au long de l'Afrique, quand ils ont commencé à se mélanger avec les populations locales qu'ils ont rencontrées, et en quoi la génétique leur a aidé à mieux s'adapter à l'environnement, que ce soit climatique, nutritionnel, voire pathogénique.
Alors vous pouvez tracer des lignes sur une carte qui correspondent au parcours qu'ont fait les populations bantoues dans l'histoire.
Et c'est une des choses qu'on abordait dans cette étude, c'est-à-dire il y avait deux grandes hypothèses pour dire d'où les Bantous se sont originés, c'est-à-dire Cameroun-Nigeria, pour bouger vers l'est, vers le sud, et nos données génétiques, ils ont montré que tout d'abord ils ont traversé la forêt équatoriale, pour après se diviser en une migration qui ira vers l'est de l'Afrique et une autre migration qui ira vers le sud de l'Afrique.
C'est la première fois qu'on trace aussi précisément le déplacement de ces populations ?
C'est la première fois qu'on le trace aussi précisément d'un point de vue génétique et qu'on peut apporter une réponse à plusieurs hypothèses qu'il y avait déjà, basées sur la linguistique surtout et l'archéologie.
Alors vous parliez du métissage au cours de leur migration, ces peuples bantous en ont rencontré d'autres. Et vous parlez d'un métissage avantageux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ces populations ont commencé à se déplacer. Et évidemment, ils ont trouvé des populations locales de chasseurs-cueilleurs, que ce soit pygmées en Afrique de l'Ouest, des Africains de l'Est pastoralistes, et les populations dites avant de Bushmen en Afrique du Sud. Ils se rencontrent, tout au début ils ne se mélangent pas, parce qu'on a pu voir que ce métissage est arrivé que dans les dernières 1000 ans. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux façons de s'adapter à l'environnement d'un point de vue génétique. Soit on s'assoit et on attend qu'un jour arrive une mutation par hasard comme toujours, et que cette mutation nous aide à mieux résister le paludisme par exemple. Il y a une autre façon beaucoup plus simple, que c'est simplement via l'amour se métisser avec des populations locales, que eux sont adaptés déjà, et que eux, ils ont des allèles que leur permet d'être adaptés à l'environnement, et d'une façon très simple, acquérir des mutations qui nous permet, d'un, par exemple, comme en Afrique de l'Est, de mieux digérer le lait à l'âge adulte, ou d'acquérir, comme en Afrique de l'Ouest, avec, via le mélange avec les pygmées, d'acquérir de formes de HLA qui nous permet de mieux résister à certaines maladies infectieuses.
Donc l'amour, c'est mieux pour digérer le lait. Chez les Bantous, hein.
Oui. L'amour, c'est mieux toujours.
C'est mieux toujours. Et c'est mieux pour la diversité génétique aussi, apparemment.
Et pour la paix.
Moi, je vais être trouble fait parce qu'après l'amour, on va parler de quelque chose de moins drôle qui est l'esclavage. Parce que vous montrez aussi, grâce au génome, les différents ports qui ont servi à la traite des esclaves. Et vous mettez même une quantification sur ces ports, une quantité de population qui est partie vers les États-Unis.
Ça, c'est la dernière partie de l'histoire des populations bantoues, partie malheureuse, parce que ce n'est pas des migrations volontaires, ce sont des migrations obligées, forcées. Les données historiques proposaient déjà évidemment différents ports dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, à partir duquel il y aurait eu de la traite d'esclaves. Et en comparant les génomes actuels de ces quatre différents ports en Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 individus d'Afro-Américains des États-Unis, on a pu retracer cette grande partie du génome des Afro-Américains entre 75 et 80% qui vient de l'Afrique, ou quelle est la contribution de chacun de ces ports au génome actuel des Afro-Américains.
C'est une nouveauté, cette quantification de chaque port pour la traite des esclaves ?
Oui, notamment parce qu'il y avait des parties de l'Afrique, des ports très importants pour la traite d'esclaves, dont on ne disposait pas des données génétiques.
Donc il y a des chiffres, hein. 50% des Afro-Américains viennent du Golfe du Bénin, 30% d'Afrique centrale, du Gabon, de l'Angola, 13% de Sénégambie, c'est le bassin du fleuve Sénégal et Gambien, et 7% de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très très précis, effectivement. Donc ça veut dire que là, avec la génétique, Luis Quintana Merci, vous éclairez d'un jour nouveau l'histoire de ce peuple. C'est important aussi pour ces Bantous, non ?
Pour les Bantous d'Afrique, oui. Et pour les descendants des Bantous d'Afrique, après, ils ont été transportés par force aux États-Unis. Aussi, surtout en Amérique du Nord, il y a un grand intérêt pour mieux connaître les origines génétiques qu'en Europe, que peut-être on est moins intéressé parfois.
Est-ce que la génétique permet aussi d'expliquer pourquoi la langue bantoue a eu autant de succès en Afrique subsaharienne ?
Bon, la génétique peut apporter sa petite contribution. Après, pour mieux comprendre l'histoire de tout, il faut contraster les différentes disciplines. La génétique, ce qui montre pour l'instant, c'est qu'il y a eu, bien avant que les Bantous soient Bantous, une grande expansion, déjà. On l'avait déjà montré il y a quelques années. Ce qui probablement a fait que ces chasseurs-cueilleurs, qu'ils étaient beaucoup, ils ont commencé à acquérir, à adopter une nouvelle technologie, que c'est l'agriculture. Et dans les dernières 3-5 000 ans, cette nouvelle technologie de l'agriculture s'est déplacée et avec les langues mantou et avec les gènes, parce qu'il y a eu un vrai déplacement des populations.
Merci Louis Quintal, merci d'être venu justement nous expliquer un petit peu l'objet de vos travaux avec votre équipe. Travail publié justement très récemment dans la revue Science. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le Tyrannosaure Rex qui était capable de faire exploser les os les plus robustes en un coup de dent, la pression de sa mâchoire dépassant certainement les 3 tonnes, ce qui correspond à 3 fois la puissance de la morsure des crocodiles du Nil, la plus forte du règne animal actuel. Les chercheurs, à l'origine de cette estimation, se sont basés sur la forme des dents, du crâne et de la mâchoire des T-Rex et ont estimé la forme et la puissance de leurs muscles en comparaison avec différents animaux, dont les oiseaux actuels, seuls dinosaures encore disponibles. Ils estiment que cette capacité à mâchonner des os comme des chewing-gums est un élément clé de leur mode d'alimentation de charognard. Pendant les grosses vagues de chaleur, les arbres des villes participent à la pollution à l'ozone. Cet effet contre-intuitif quand il s'agit d'améliorer la qualité de l'air en ville en plantant des arbres s'explique par le fait que les arbres justement émettent naturellement de faibles quantités de composés organiques volatiles, des molécules carbonées qui, par un effet d'interaction avec les polluants, participent à la formation d'ozone. Le problème est qu'en période de forte chaleur, ces émissions de composés sont fortement décuplées. Une étude de cas simulée sur la ville de Berlin montre que les arbres sont responsables de 10 à 20% de formation d'ozone. L'ozone, un gaz nocif pour la santé, responsable de crises d'asthme, de toux et d'essoufflement. Et puis peut-être vers des contraceptifs non hormonaux à base de plantes, un groupe de chimistes américains vient de découvrir une molécule naturelle qui rendrait les spermatozoïdes incapables de percer l'ovule et donc de la féconder. Il s'agit du lupéole qui est présent en très faible quantité dans les oliviers, les manguiers ou même l'acacia et qui bloque la réponse chimique naturelle du sperme en présence de progestérone, une réaction chimique qui lui permet normalement de pénétrer l'ovule. Un nouveau médicament basé sur cette molécule est en réflexion, utilisé préventivement. Il serait accessible aux deux sexes sans distinction, mais il serait également efficace comme contraceptif d'urgence sans effet sur le cycle hormonal féminin. Des essais sur des primates sont en cours actuellement. Les chercheurs précisent qu'une telle substance sera parfaitement inefficace pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Et on s'intéresse aux troubles borderline dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré.
I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine.
Another Day of Stone, La La Land à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
En fait, t'as ce qu'on appelle une personnalité borderline. Ça veut dire que t'étais fragile au départ, alors. Ça doit sûrement se développer depuis un moment. Probablement depuis ton accident. T'as besoin d'aide, Rebecca, et je peux rien faire du tout. Alors tu vas rester ici cette nuit. Et demain, ils vont te transférer dans un institut psychiatrique. Je crois que c'est mieux.
Voilà, extrait de la saison 4, épisode 17 pour être tout à fait précis, de la série Grey's Anatomy, réaction émotionnelle instable, difficulté dans les relations, impulsivité. On s'intéresse donc à ces troubles borderline dans le dossier de l'émission avec mes invités. Déborah Ducasse, vous êtes donc médecin psychiatre, psychothérapeute et responsable de la filière de soins pour les personnes qui souffrent de ce trouble à Montpellier. Et Véronique Bron-Harpon, vous êtes docteur en biologie de la santé, infirmière et psychothérapeute, et vous avez donc monté ensemble ce premier service spécialisé et vous publiez là aussi ensemble Borderline, un cahier pratique de thérapie à domicile. On va présenter ce livre dans un instant. Il paraît aux éditions Odile Jacob et il y a déjà énormément de questions et de réactions des auditeurs. Visiblement un trouble connu des personnes qui nous écoutent et qui concerne un certain nombre d'entre elles. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on découvre d'abord en vous lisant, c'est la fréquence de ce trouble. Il s'agirait du plus fréquent des troubles de la personnalité, Déborah Ducasse ?
Oui, absolument. Ouais. Donc ce trouble concerne jusqu'à 6% de la population générale. C'est 10% des personnes qui viennent consulter en psychiatrie pour des consultations ambulatoires et 20% des patients hospitalisés en psychiatrie. Et jusqu'à la moitié des patients hospitalisés dans des services de suicidologie, donc ouais, des patients ayant fait des tentatives de suicide. Donc c'est un trouble très fréquent et qui est associé à beaucoup de souffrances chez les personnes qui en souffrent.
À partir de quand a émergé ce terme de borderline ?
Alors, le terme de borderline naît en 1938. Donc borderline, pour faire référence à la frontière entre deux états, névrose et psychose, donc... À la fin du 19e siècle, finalement, on parlait de névrose en référence à un trouble psychique sans substrat organique. Donc Freud parlait d'un trouble psychique qui était la résultante d'un conflit non résolu. Et puis, de l'autre côté, on avait les psychoses, qui étaient des troubles dans lesquels les personnes perdaient le contact avec la réalité. Donc névrose, j'ai un contact avec la réalité, j'ai conscience de ma souffrance. Et psychose, finalement, une perte de contact avec la réalité. Et finalement, il y avait des personnes qu'on ne pouvait pas classer dans la catégorie névrose ou psychose. Ça fluctuait, en fait. Elles pouvaient par moments se comporter de façon névrotique, avoir plutôt un fonctionnement névrotique. Et dans certaines occasions, lors de moments de stress intense, elles pouvaient finalement présenter des symptômes plutôt du registre psychotique. Donc c'est comme ça qu'est né le terme de borderline, ligne entre névrose et psychose.
Ouais, alors on va faire la distinction avec les bipolaires aussi, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, parce qu'il y a une distinction très nette effectivement entre les deux. D'abord Véronique Bron-Harpon, un petit mot sur votre travail à toutes les deux, parce que monter justement au sein du CHU de Montpellier, cette première filière dédiée spécifiquement à ces personnes-là, c'est vous qui avez réalisé ce travail, c'est la première unité vraiment identifiée de la sorte en France. C'est compliqué justement de faire ce travail ?
Alors les choses se sont faites progressivement. Au départ, on travaillait dans un service justement où on accueillait beaucoup de patients suicidaires notamment. Et on a commencé à mettre en place certains groupes de thérapie. Et puis petit à petit, on a commencé à spécialiser la prise en charge, notamment en associant plusieurs types de thérapie. Et c'est ainsi qu'on a finalement... proposer ce programme vraiment intégratif et
ouais. Alors, mis justement, en place avec le temps. Il y a beaucoup de questions, Déborah Ducasse, au sujet de la différence entre la pathologie borderline et la bipolarité. On peut peut-être en parler tout de suite avant de décrire dans le détail tous les symptômes. Il y a Laure qui nous dit « Mon fils de 21 ans a été diagnostiqué bipolaire. Il a un traitement d'ailleurs pour cette maladie. Mon médecin généraliste me disait que c'était la nouvelle dénomination de borderline. Qu'en est-il exactement ? » Attention, non, justement.
Alors non, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont deux troubles qui sont bien distincts, bien que souvent associés, mais c'est bien distinct. Le trouble de personnalité borderline est un trouble des émotions, et on y reviendra juste après, pour expliquer plus précisément ce qu'est ce trouble. Donc c'est un trouble de la personnalité. Le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Donc on va être sur des périodes de temps prolongées de phases dépressives. Donc phases dépressives sont des phases où il y a une prédominance de la tristesse, du manque d'envie, manque d'entrain pour faire les choses, et puis des phases prolongées plutôt d'exaltation de l'humeur, d'euphorie, d'augmentation des activités, du diminution de besoin de sommeil. Donc le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur qui nécessite absolument un traitement médicamenteux. Ouais. Le trouble de personnalité borderline, troubles des émotions. Les traitements médicamenteux n'ont pas vraiment démontré d'efficacité au jour d'aujourd'hui. Mmh. Le traitement de référence, c'est la psychothérapie, et pas n'importe quelle psychothérapie. La psychothérapie qui a le plus démontré d'efficacité dans ce trouble au jour d'aujourd'hui, c'est la thérapie comportementale dialectique. Et ces éléments sont repris justement dans la thérapie qu'on propose dans le livre.
Ouais, Véronique Brand-Harpon, vous êtes souvent obligée de faire la distinction, et très souvent des patients viennent vous voir pensant qu'ils sont borderline, alors qu'en réalité ils sont bipolaires.
Alors en réalité, la prise en charge commence dès l'hospitalisation, parfois dans un service d'urgence, et ensuite il y a réellement des consultations où le diagnostic va être posé. Donc au moment où ils arrivent dans les thérapies, ils savent déjà clairement ce qu'il en est du diagnostic.
Lise dit « Mon ex-conjoint correspond à la description des personnes borderline ». On va faire cette description dans un instant. Ses parents sont proches également de cette description. Est-ce que cette maladie, on dit maladie, trouble, peut être héréditaire?
Le trouble borderline, en fait, naît de l'interaction entre une vulnérabilité génétique. Donc en effet, on a un panel de gènes qui rendent plus à risque de développer ce trouble. Mais l'aspect génétique ne suffit pas à expliquer le trouble. Il y a une interaction entre vulnérabilité génétique et ce qu'on appelle environnement invalidant.
Donc, qui fera que ça s'exprimera ou pas, justement.
Exactement. Et donc ça, on va y revenir sur cet environnement invalidant. Cet environnement, ce sont finalement des parents, des proches, qui n'ont pas aidé l'enfant à identifier ce que sont les émotions. Quelle est la fonction des émotions. Donc, ce sont des familles qui ont plutôt réprimé l'expression des émotions et des familles qui ont eu de très hautes exigences, finalement, de réussite pour l'enfant, au détriment, finalement, du ressenti émotionnel.
Donc ça, c'est vraiment l'environnement, au sens très très large du terme, qui pourra déclencher ensuite cette susceptibilité génétique.
Exactement, chez un sujet prédisposé.
Alors, Déborah Ducasse, il faut qu'on consacre un petit peu de temps, évidemment, aux symptômes, parce qu'il y a des choses très caractéristiques justement autour de ces troubles de la personnalité. On peut les regrouper en plusieurs dimensions, c'est ce que vous faites en tout cas dans l'ouvrage.
Exactement, tout à fait. Donc en fait, ce trouble de la personnalité comprend quatre grandes dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle. Donc finalement, c'est une difficulté à réguler les émotions. Donc ce sont des personnes qui sont très sensibles, qui ont un seuil d'activation bas des émotions, et des émotions particulièrement intenses. Donc l'émotion se déclenche pour des petites choses, une intensité importante, et puis ça va mettre du temps à redescendre. Et ça va conduire à des niveaux de tension émotionnelle très élevés au cours d'une journée chez les personnes qui souffrent de ce trouble. Et par ailleurs, chez les personnes borderline, on a un sentiment chronique de vide, une perturbation de l'identité, c'est-à-dire la difficulté à identifier qui je suis, ce que je veux faire de ma vie. Et finalement, la tendance à coller à la perception et aux attentes des autres pour orienter mes actions dans la vie. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Ensuite, il y a une autre dimension qu'on appelle l'impulsivité. L'impulsivité, c'est finalement le fait qu'il y ait peu de temps entre le moment où j'ai une pensée, une émotion, et le moment où je passe à l'acte. C'est du tac au tac. Mmh. C'est-à-dire que face à une tension émotionnelle, un inconfort interne.
J'ai une réaction immédiate sans avoir un temps de réflexion.
Tout à fait. Une action qui va viser à soulager mon inconfort sur le court terme, mais c'est pas efficace finalement pour ma vie, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes relations. On peut donner en guise d'exemple, par exemple, des comportements addictifs, fumer des joints, boire de l'alcool pour diminuer ma tension interne, ou même le fait d'avoir finalement un comportement agressif vis-à-vis de quelqu'un de mon entourage, sous le coup de la colère, donc c'est-à-dire mes mots dépassent mes pensées, ça peut être aussi finalement les scarifications, les tentatives de suicide, donc ces comportements qu'on appelle autodommageables, qui ont une même fonction, celle d'éviter la souffrance.
Et il y a une répétition apparemment de ces comportements qui est très identifiée.
Exactement,
il y a une répétition. Ça fonctionne un peu comme des sorties de secours. On est tellement mal qu'on prend le premier moyen qu'on sait fonctionner pour faire baisser cette douleur-là. Et à ce moment-là, on est vraiment juste dans le court terme et parfois au détriment justement de projets de vie un peu à plus long terme.
Et puis les relations avec les autres.
Alors là, c'est fondamental, cette dimension elle est fondamentale. Donc ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés dans le rapport à autrui. Mmh. Ce sont des personnes qui fonctionnent en général en tout ou rien, blanc ou noir. Donc on parle de fonctionnement dichotomique. Donc ce sont des personnes qui sont hyper entières, qui vont avoir tendance à s'hyper investir dans les relations de façon très intense, trop même. Et puis, en parallèle de cet investissement important, il va y avoir des attentes, souvent élevées, à l'égard finalement des personnes importantes. Et donc, comme les autres ne sont pas à la hauteur des attentes, il va y avoir beaucoup de déceptions. Et donc, dans la trajectoire de vie des personnes borderline, on retrouve finalement des relations qui vont être très intenses et très instables. Hmm. Ça va faire beaucoup de yo-yo relationnel.
Alors, il faut remplir tous ces critères-là pour être diagnostiqué borderline?
Alors,
ou certains d'entre eux
certains
suffisent
d'entre eux. Alors, certains d'entre eux, je vais y revenir dans un instant parce qu'il me semble important de préciser qu'il y a la peur de l'abandon, que je n'ai pas encore cité, qui est vraiment centrale dans ce trouble, c'est-à-dire la peur que les personnes importantes pour moi s'éloigne, me laisse tomber, et donc il y a des comportements qui sont mis en place à viser de garder ces relations même si c'est pas fonctionnel. Par exemple, des demandes de rassurance excessives sur la relation, voire le fait de faire beaucoup de choses pour que l'autre reste avec moi, au détriment finalement de l'estime de moi. Donc, en effet, il y a 9 critères qui sont identifiés comme faisant partie du trouble borderline, et il en faut en présenter 5 pour avoir le diagnostic de trouble de personnalité borderline.
Alors Sandy justement demande, comment sait-on qu'on est borderline et comment est-ce que vous le diagnostiquez précisément, Véronique Bron-Harpon ?
Alors finalement, donc sur le CHU de Montpellier, il y a des consultations qui sont dédiées au diagnostic du trouble de personnalité. Donc quand les personnes se retrouvent dans un service de soins, si on identifie qu'il y a certains des traits qui viennent d'être présentés, notamment donc en lien avec une dysrégulation émotionnelle, des conduites impulsives.
Donc c'est un entretien que vous faites avec la personne ?
Du coup, voilà, il y a une consultation qui est programmée et quand la personne donc répond à 5 critères sur 9, donc il lui est proposé de participer à une thérapie.
Ouais. Mais les personnes viennent vous voir d'elles-mêmes ?
En fait, les personnes viennent nous voir d'elles-mêmes parce que maintenant, elles entendent, effectivement, elles entendent ce qui se passe sur l'hôpital de Montpellier, cette prise en soins spécifique. Elles sont très, très en demande d'aide et la thérapie étant la meilleure, finalement, aide possible pour ces personnes-là.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller. La tête renversée. T'engager au lit. Laisse-toi un jour. T'es bien engourdi, empêtré, raide, bloqué. Jamais su danser, t'as jamais su glisser.
On va tout. quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui viendrait en aide à n'importe qui, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Enfin, je suis tout le temps présente. Le problème, c'est que je suis aussi capable du pire. Alors, pas envers les autres, mais envers moi-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, dont la dernière en date du mois de juillet. Je connais pas mes limites, en fait. Je crois que j'en ai pas. Et souvent, je me suis mise en danger en prenant des cachets avec de l'alcool, par exemple, en faisant tout un tas de choses. Le problème, c'est que un jour, en testant ses limites, je risque d'y laisser ma peau. Je suis pas sûre que mon entourage ait envie de ça. Moi, à la limite, aujourd'hui, je crois que je n'ai plus rien à faire.
Voilà, c'est le témoignage anonyme sur le trouble borderline issu du site aforpel.org. C'est une association pour la formation et la promotion de l'état limite. Déborah Ducasse, Véronique Brand-Harpon, nos invités pour parler justement de ce trouble. Véronique Brand-Harpon, peut-être une réaction sur la description de cette personne autour de ces troubles.
Alors, cette description représente effectivement ce que beaucoup de personnes borderline peuvent vivre. Mais il y a quand même un bon espoir parce qu'avec des outils thérapeutiques et notamment justement ce qu'on propose dans ce programme intégratif, il y a possibilité de retrouver un sens à sa vie. Parce que là, c'est ce qu'on entend, c'est qu'à force de mettre en place ce type de comportement, finalement, la vie se réduit autour de ses conduites à risque.
Avec tentative de suicide.
Avec tentative de suicide, ce qui est dur pour la personne, ce qui est dur pour les proches également. Et du coup, vraiment, nous, la base de la thérapie, ce sera de pouvoir permettre à ces personnes de retrouver un sens, un chemin qu'elles veulent donner à leur vie. Et ensuite, des outils thérapeutiques qui leur permettent finalement de mieux réguler ses émotions, de ne plus être obligé de mettre en place ces comportements impulsifs qui n'ont qu'une seule fonction, finalement, faire cesser cette douleur.
Déborah Ducasse, un commentaire aussi sur la personnalité de cette jeune femme.
Tout à fait. Donc, dans ce témoignage, on entend effectivement la souffrance. Et effectivement, cette souffrance, on la retrouve beaucoup chez les personnes borderline. Des émotions qui sont très intenses, qui sont mal régulées. On parle souvent de marmite bouillonnante d'émotions. Et dans des moments, effectivement, de tension émotionnelle très importante, avec perte de contact avec le sens de la vie, on peut retrouver des comportements de type tentative de suicide qui ont finalement pour fonction de faire arrêter la souffrance le plus rapidement possible. Sauf que, effectivement, ce sont des comportements qui ne prennent pas soin de la personne par définition et qui peuvent avoir un impact aussi sur l'entourage de la personne.
Larry sur Twitter nous dit, est-ce qu'il n'y a pas une forte interaction entre l'individu et la société ? Car dès lors, comment s'étonner qu'une société borderline elle-même engendre des individus borderline ? Vous trouvez que la société est caractérisée aussi par ces troubles ?
Donc, en fait, on connaît aujourd'hui mieux le trouble, donc on identifie mieux les personnes qui finalement passaient auparavant entre les mailles du filet. Donc finalement, on trouve ce qu'on cherche. Donc effectivement, ce trouble borderline est plus identifié, il y a plus de diagnostics posés. Mais aussi, il faut quand même revenir sur le fait que le trouble borderline naît d'une interaction entre, ce que je vous disais tout à l'heure, vulnérabilité génétique et milieu invalidant. Et ce milieu invalidant qui est caractérisé finalement par la punition de l'étalage émotionnel, c'est-à-dire si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas pleurer, le non-enseignement des émotions par les parents. Et donc, ce n'est pas illusoire de penser que le développement d'une culture qui est basée sur la réussite sociale au détriment de la réussite familiale, sur l'individualisme, au détriment du lien familial, favorise l'émergence de personnes présentant un trouble borderline.
Véronique Brand-Harpon, vous recevez des enfants aussi dans votre consultation ou pas ?
Alors nous, on ne reçoit pas d'enfants dans nos consultations. Par contre, c'est vrai qu'on a une grande demande de la part des patientes qu'on suit d'aide et de conseils pour leurs enfants, en fait, parce qu'elles ont effectivement peur que leurs enfants développent le même type de trouble. Et c'est là qu'en fait, le meilleur conseil qu'on pourrait donner, finalement, c'est en lien avec ce que le docteur Ducasse vient de dire, c'est finalement de valider au mieux les émotions de nos enfants, même si finalement on ne comprend pas pourquoi c'est ressenti comme ça, c'est la réalité.
Ça veut dire quoi concrètement? Alors, valider au mieux les émotions d'enfants? Parce que là, on est dans des termes un peu techniques, mais concrètement, quand on est un parent et qu'on est avec son enfant, qu'est-ce qu'on doit valoriser alors dans les relations?
Par exemple, si un enfant vous exprime de la tristesse, même si vous ne comprenez pas pourquoi il est triste, finalement, lui dire, oui, là, je vois que tu es triste, ça doit être difficile de ressentir ça. Et finalement, c'est même pas tant le fait de lui trouver une solution à son problème qui est important, mais juste de reconnaître que oui, il ressent ça, ce qui permet de se connecter à cette tristesse-là, de la valider parce qu'elle est là, ne pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Et du coup, après, l'idéal, c'est justement pour les patientes qui suivent nos groupes de thérapie, c'est finalement leur dire, s'il y a de la tristesse, c'est que finalement, il y a un manque de quelque chose. Enfin, cette tristesse, elle exprime quelque chose vraiment de profond. Et ça, c'est validé justement dans le ressenti personnel.
Ça, c'est ce qui ressort beaucoup des témoignages des patients que vous recevez, Déborah Ducas. C'est vraiment cette non-expression des émotions depuis l'environnement familial.
Alors, la non-validation des émotions de la part de l'entourage. Hein, c'est-à-dire que l'entourage ne va pas être présent pour valider, c'est-à-dire dire à la personne, oui, c'est dur de vivre ce que tu vis. Parce que c'est vrai que dans le parcours des personnes borderline, il y a beaucoup, les émotions sont très intenses. Il y a souvent une expression très importante des émotions. Et parfois, l'entourage ne comprend pas, finalement. On ne comprend pas pourquoi un petit rien, une petite chose qui nous paraît pour tout un chacun complètement anodine, déclenche chez la personne borderline quelque chose de très important. Et donc, du coup, comment peut agir l'entourage là-dessus, c'est finalement en reconnaissant que oui, il y a de la souffrance et oui, c'est dur de ressentir ça.
Vous parliez de la peur de l'abandon tout à l'heure pour illustrer cet aspect aussi de ce trouble. Un extrait du film « Liaison fatale ».
Merde.
Qu'est-ce que tu fais ?
Il faut que je parte.
Tu m'avais dit qu'elle ne rentrait que demain ?
Oui, c'est vrai, mais j'ai des choses à faire. J'ai des tas de choses à faire. Il faut que je m'en aille.
Je crois que j'aime pas du tout ça.
Pas du tout quoi ?
La façon de t'enfuir chaque fois que nous avons fait l'amour.
Alors écoute, Alex, quelle différence ça peut-il faire que je m'en aille maintenant, que je m'en aille demain ? Je dois partir, c'est tout.
Oui, mais pas maintenant.
Voyons, essayer de comprendre. Alex,
arrête,
voyons,
non.
Arrête. Alex, ça suffit.
Voilà, extrait de Liaison fatale. Voilà, pour illustrer aussi cette peur de l'abandon dans des cas de figure très, très différents, Déborah Ducas.
En effet, la peur de l'abandon, c'est vraiment une peur qui est centrale dans ce trouble, que l'abandon soit finalement réel ou imaginé. C'est-à-dire, j'ai vraiment peur que les personnes à qui je tiens s'éloignent de moi, me laissent tomber, et donc on va retrouver des comportements qui visent à maintenir le lien coûte que coûte. Oui. Peut-être au déprimant, des fois, du respect de soi.
Sophie nous dit, un membre de ma famille semble avoir tous les symptômes de cette personnalité. À cause de cela, cette personne est fâchée avec tous ses proches, elle se retrouve isolée. Le problème, c'est qu'elle refuse d'entendre qu'elle souffre d'un trouble psychologique. Comment s'y prendre pour l'amener à consulter ? Véronique Brand-Harpon. Alors d'abord, le fait de s'isoler, de se fâcher aussi, les colères, hein, c'est très présent aussi dans les symptômes identifiés.
Alors les colères sont très présentes dans les symptômes identifiés, ce qui fait effectivement qu'au quotidien, ça peut être parfois un peu compliqué, parce que les proches du coup se retrouvent à être un peu dans le contrôle de ce qu'elles vont dire ou faire, parce que de peur de déclencher ces grosses colères-là. Et puis ensuite, je pense qu'effectivement, il y a parfois des ruptures relationnelles, parce qu'il y a des attentes, et finalement, quand des attentes à la hauteur de ce qui est investi en fait par la personne borderline, et finalement, quand les attentes sont déçues, parfois la personne se dit, tiens, l'autre tient moins à moi que moi je ne tiens à l'autre, et de ce fait, préfère abandonner plutôt que de revivre un abandon.
Alors comment justement on peut faire avec une personne de son entourage qui serait peut-être identifiable à ce trouble, pour l'inviter peut-être à consulter ?
C'est ce que j'allais
dire. C'est compliqué, hein ?
Alors en général, quand même, ces personnes sont en souffrance et à un moment, quand même, quand il leur est expliqué qu'il existe une possibilité d'améliorer ce trouble-là,
elles écoutent,
elles sont quand même en demande de ça, même si c'est pas la première fois, mais en général, quand même, dans des moments de vraiment de douleur intense, on est prêt quand même à accepter de l'aide. Et du coup, en fait, la thérapie est donc la meilleure aide possible, puisqu'en fait, elle peut agir sur chacune des dimensions du trouble qui a été écrit au départ.
Déborah Ducas, le lien entre la dépression aussi et le trouble borderline, parce qu'on entend beaucoup de symptômes qui sont très, très liés.
Alors en fait, il faut savoir que quand on présente un trouble de personnalité borderline, on est plus à risque de développer ce qu'on appelle des comorbidités, d'autres troubles à côté. Et un des autres troubles, ça peut être une dépression. Mais la dépression, c'est finalement une période de temps prolongée d'au moins 2 semaines où il y a une diminution du manque d'envie, du manque de plaisir à faire les choses, la tristesse. Donc cet épisode dépressif peut être résolutif à la mise en place de traitements, comme traitement antidépresseur. En revanche, le trouble de personnalité borderline, c'est un fonctionnement quotidien qui perdure dans le temps. C'est un mode de fonctionnement, c'est une personnalité.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion. Beaucoup de messages encore pour vous, pour nous rejoindre franceinter.fr et les réseaux, juste après Donovan et Sunshine Superman.
Sunshine came softly through my window today. But I've changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my mind up.
Kitty était comme un cheval sauvage qui s'était tranché les jarrets en franchissant une barrière de silex et qui essaye de se relever. Ce qu'elle avait pris pour une prairie ensoleillée n'était en fait qu'un enclos triste et sombre. Et elle connaissait rien du tout à l'immobilité. Elle n'était pas faite pour ça.
C'était quel sujet?
Je sais pas, ma femme a pris rendez-vous.
Pardon?
C'est vous qui avez écrit ça?
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai posé une question, tu la reconnais, non?
Bah,
c'est qui,
oui,
ça?
Voyez-vous, j'écris des lettres.
C'est qui, ça?
Mais enfin...
Éditeur de merde, de bouquin de cul!
Mais vous êtes folle, non?
Ah oui, tiens, je suis folle.
Excusez-la, docteur, je
vais faire... Laisse-la, toi! Mais tu penses de sa lettre?
Mais ça m'intéresse pas ce qu'il pense, j'en ai rien à branler de sa lettre, c'est des conneries, Betty, tout ça. Écoutez, je n'accepte pas vos manières. La parole, comme l'écriture, requiert un minimum d'élégance, ce qui semblerait vous faire particulièrement défaut.
Mais parce que ton œuf, c'est l'élégance.
Allez, parlez-moi, quand je dis chez moi ici.
Ne touche surtout pas, toi!
Arrête un peu ton cirque, Betty, tu veux? Oh! Mais t'es cinglé! Mais je suis une folle!
Voilà, extrait de 37 de Le Matin de Jean-Jacques Benex, Béatrice Dalle, hein, qui campait le rôle de Betty, avec cet extrait pour parler donc du trouble borderline avec Déborah Ducasse et Véronique Hébran-Harpon. Déborah Ducasse, ce sentiment d'injustice qui, tout d'un coup, voilà, fait déborder justement la marmite, comme vous le décriviez tout à l'heure.
Tout à fait. Donc le sentiment d'injustice finalement fait émerger une émotion qui s'appelle la colère. Mmh. Et en effet, chez les personnes borderline, on va retrouver un seuil d'activation bas de la colère, c'est-à-dire que une petite chose va déclencher de la colère et la colère va être particulièrement intense avec des comportements très impulsifs face à la colère. Ça peut être par exemple casser des objets, claquer des portes, voire dire des choses à quelqu'un d'important pour moi qui dépasse mes pensées.
Ouais, Maxime dit « Je me reconnais dans certains de vos critères. Chez moi, ça se traduit par des crises d'angoisse très douloureuses. Est-ce que ça pourrait être un des comportements borderline ?»
Alors une crise d'angoisse, finalement, c'est un ressenti interne dont l'émotion est la peur. Donc la crise d'angoisse n'est pas un critère du trouble borderline. En revanche, les personnes borderline ayant un problème de régulation des émotions peuvent avoir à faire face à des moments d'angoisse importants.
Alors, ce livre Borderline, le cahier pratique de thérapie à domicile aux éditions Odile Jacob, Véronique Hébran-Harpon, il y a d'abord Samuel qui nous dit, est-ce que la thérapie peut permettre vraiment de limiter, voire de faire disparaître les manifestations d'un caractère borderline? Est-ce que ça peut atténuer les causes justement de cette manifestation?
Alors tout à fait, il peut y avoir réellement des changements comportementaux, même si certaines choses douloureuses pourront peut-être continuer finalement à s'activer en soi, du fait d'une meilleure régulation des émotions, notamment par la pratique de méditation en pleine conscience, de processus de l'émotion qui sont vraiment décrits pas à pas dans le livre. Il y a possibilité de faire autre chose finalement de ces ressentis, plutôt que de passer dans un type de fonctionnement action-réaction finalement. On peut mettre de la conscience, essayer d'identifier que me dit cette émotion là en instant à moi justement, et qu'est-ce que je peux faire qui prendrait soin de ma vie finalement à plus long terme, au-delà de juste résoudre cet inconfort émotionnel sur le moment.
Alors on le disait, les gens viennent vous voir de partout en France, à Montpellier. Et comment se passe le traitement, justement la cure, ce que vous proposez? Vous recevez les gens, ils repartent avec des clés, comment ça se passe?
Alors la thérapie se fait sur 6 mois, il s'agit d'une thérapie intégrative que donc nous avons constituée à partir de la TCD, qui est donc la thérapie validée pour le traitement, la prise en charge du trouble borderline, et qui est associée à la thérapie ACT, qui est une thérapie d'acceptation et d'engagement. Et donc, nous proposons à la fois à l'hôpital, donc cette thérapie de groupe associée à un entretien individuel, mais également, donc dans ce livre, pas à pas, la possibilité de suivre ce programme, donc sur 6 mois également.
C'est pas compliqué quand on est tout seul, Déborah Ducasse, justement, de mettre au point ce type de thérapie?
En général, les personnes qui viennent nous voir sont particulièrement motivées pour le changement. Donc, finalement, elles vont mettre en place de nouvelles habitudes. Une habitude étant une succession de comportements répétés. À partir du moment où elles apprennent des nouvelles clés, des nouveaux comportements pour mieux gérer les émotions, être plus efficaces avec les autres et faire des choix efficaces pour leur vie, les choses, ça va être un cercle vertueux et les choses vont aller de mieux en mieux.
Alors, Jeanne nous dit, parce que ça revient souvent ça dans les messages, les troubles que vous décrivez me font penser à l'hyper-émotivité des hauts potentiels. Est-ce qu'il y a un lien qui a été établi sur les enfants ou les adultes surdoués d'ailleurs, et c'est revenu à plusieurs reprises?
Donc, à notre connaissance, on n'a pas en tête d'études faisant le lien entre haut potentiel intellectuel et troubles de personnalité borderline. Cela dit, effectivement, les personnes borderline vont avoir une analyse particulièrement fine quand même des interactions sociales. Elles vont hyper détecter les émotions chez autrui. Mmh. Et donc, il va y avoir quand même ça, une finesse relationnelle. Donc, les relations sont à la fois source de souffrance extrême chez les borderline et en même temps il va y avoir une certaine finesse, finesse relationnelle. Donc on peut retrouver en effet des compétences particulièrement développées par rapport aux relations.
Et il est réellement possible d'améliorer les qualités relationnelles parce qu'en fait comme ce sont justement des personnes très sensibles à leurs émotions mais aussi aux émotions de l'autre, finalement une fois dépassés certains obstacles intérieurs, ce qui est donc le cas donc proposé par cette thérapie là, finalement on arrive à des vraiment de belles relations très riches, basées justement sur le partage émotionnel, mais vraiment quelque chose de qualité où chacun peut trouver sa place, accepter l'autre vraiment tel qu'il est dans le respect des uns et des autres.
Pour répondre à Samuel tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire disparaître les manifestations justement de ces troubles borderline véritablement et durablement ?
On sait que les thérapies améliorent, certaines thérapies améliorent vraiment le trouble, et puis des études longitudinales, c'est-à-dire des études qui étudient l'évolution du trouble sur la durée, montrent qu'au bout de 16 ans d'évolution, la majorité des personnes ne présentent plus les critères de ce trouble. Ce qui persiste malgré tout, c'est le sentiment de vide et la peur de l'abandon. Donc finalement, c'est un trouble qui évolue plutôt favorablement dans le temps, mais qui est une source de souffrance importante. Et donc les thérapies visent à aider les personnes à faire face plus rapidement à ce trouble et de façon plus efficace.
Et en fait, le bonus de ça, c'est que finalement, quand on applique les procédés thérapeutiques, ben finalement, on transcende quelque part ces difficultés-là et justement on passe à un autre niveau de qualité relationnelle ou également d'investissement dans les domaines de la vie qui sont importants pour soi.
Déborah Ducasse, il y a beaucoup de publications scientifiques sur le sujet, d'ailleurs leur nombre est exponentiel, il y en a eu plus de 8000 je crois rien qu'en 2016.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on étudie justement, les effets au long terme justement ?
Alors, on étudie beaucoup de choses, vous avez raison. Donc, les études sont exponentielles. Dans les années 90, on dénombrait 1500. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on en est à plus de 8000. Donc, on étudie plusieurs choses. On étudie les mécanismes psychologiques et neurobiologiques qui sous-tendent ce trouble par différents outils. Et puis, on étudie aussi, finalement, l'efficacité des thérapeutiques dans le trouble de personnalité borderline. Notamment, quelles sont les thérapies efficaces et comment précisément marchent ces thérapies de façon à pouvoir extraire des mécanismes d'action et finalement généraliser le plus possible et le plus facilement possible les interventions fonctionnelles pour ces patients.
Véronique Brand-Harpon, pour conclure.
Pour conclure, je dirais que nous proposons donc ce cahier donc, qui permet d'appliquer, de pratiquer cette thérapie à domicile, pas à pas, et que c'est à la fois très aidant évidemment pour les personnes qui ont un trouble de personnalité borderline, mais également pour d'autres personnes qui finalement se reconnaîtraient dans certains troubles de la régulation émotionnelle.
Et donc ce service dédié aux troubles de la personnalité au sein du CHU de Montpellier, avec peut-être d'autres services qui se créeront dans les années qui viennent, vu apparemment le nombre de personnes concernées par ce trouble qu'on découvrait donc aujourd'hui dans la tête au carré. Borderline, cahier pratique de thérapie à domicile, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Comme tous les mercredis, on a rendez-vous avec les documentaires de la Casse Science de France 5. Ce soir, 20h50, Léonard de Vinci, accélérateur de science. Michel Spavone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le producteur de ce film pour Programme 33. Alors, c'est une grande enquête sur l'étendue du génie scientifique de Leonardo.
Exactement. C'est un docu-fiction assez ambitieux, réalisé par Marc Daniels, que nous avons coproduit avec Jeanne en Italie. Alors, le film pose une question qui pourrait presque faire grincer des dents. Est-ce que Léonard de Vinci est le génie unique et absolu qu'on imagine. Ou alors s'est-il contenté de copier, de recycler le travail d'autres inventeurs ? Je m'explique. C'est la dimension scientifique de Léonard de Vinci qui est au cœur du film. Il nous a laissé 15 tableaux. Mais c'est surtout 6000 pages de notes et de dessins scientifiques qui sont arrivés jusqu'à nous. Dans ces notes figurent des recherches dans des disciplines très variées. Et certaines de ces inventions, d'ailleurs, préfigurent des technologies de notre époque. Le parachute, le tank, l'automobile, le sous-marin. Mais la redécouverte et l'étude récente de manuscrits provenant entre autres de la Grèce antique ou du monde arabe viennent éclairer ses travaux sous un nouveau jour. Son système de respiration sous l'eau avait été imaginé par les Assyriens 3000 ans plus tôt et son parachute est similaire à celui décrit par un scientifique musulman à Cordoue. On revient à la question de départ, coïncidence ou habile récupération du travail d'autrui, faut-il reconsidérer la légende de Léonard de Vinci ? Comme toujours, la vérité est plus nuancée.
Le mythe va-t-il s'effondrer ? Extrait en tout cas de Léonard de Vinci, accélérateur de science.
Les notes de Léonard sur la réflexion de la lumière prouvent qu'il a étudié l'ouvrage optique d'Al-Haytham écrit en 1021. C'est de là que vient son intérêt pour la caméra oscura, qui est une réplique de l'œil humain dans laquelle un petit trou sert de lentille pour projeter un décor lumineux sur le mur d'une pièce sombre. Léonard n'est pas un devin. Il a simplement redécouvert un passé lointain où la technologie était plus sophistiquée, mais dont on avait perdu la trace après la chute de Rome.
Ibn al-Haytham aligne 3 bougies. Il installe un écran, percé d'un petit trou entre les bougies et le mur, et remarque alors qu'une image se forme.
Léonard était très certainement influencé par le travail des universitaires arabes. L'islam leur laissait une liberté absolue pour étudier la science, la philosophie et réinterpréter les textes d'Aristote.
Voilà, extrait de la caméra Oscura, Michel Spavone, Léonard de Vinci, on va le découvrir, est vraiment au cœur d'une époque où les connaissances explosent dans tous les sens.
C'est l'invention de l'imprimerie qui provoque au XVe siècle un bouleversement fondamental pour la diffusion de la connaissance. C'est une révolution qui est comparable à l'arrivée d'Internet à notre époque. Et cette diffusion exponentielle du savoir constitue le carburant de la Renaissance italienne et elle va permettre à Léonard de découvrir les travaux de nombreux scientifiques anciens ou contemporains. Et Léonard de Vinci va consacrer sa vie entière à la recherche de cette connaissance et de cette connaissance scientifique. Et je crois que c'est là que réside le véritable génie de Léonard de Vinci, et c'est ce que démontre le film. Léonard de Vinci est avant toute chose un formidable passeur de techniques et de connaissances qui a su synthétiser, transformer et augmenter les savoirs disponibles à l'époque pour contribuer au lancement d'une nouvelle ère scientifique.
Voilà, donc Léonard de Vinci, accélérateur de science, c'est ce soir sur France 5 à partir de 20h50. Merci beaucoup à vous.